Le printemps est là, ma saison préférée, et je ne sais pas pour toi, mais à cette période de l'année, j'ai envie de fraîcheur, de renouveau, et c'est souvent le moment où j'ai envie de faire un peu de ménage dans mon business. Alors si toi aussi tu as envie de démarrer la saison de l'esprit libre, ça tombe bien puisque je t'ai concocté une playlist de printemps contenant mes meilleures ressources à ce sujet. Épisodes de podcast, freebie, dans cette playlist tu trouveras tout ce dont tu as besoin pour dépoussiérer ton business, faire briller tes réseaux sociaux et devenir la reine de l'organisation. Pour télécharger ta playlist et mettre un grand coup de frais dans ton business, rendez-vous sur elodie-illustration-avec-un-s.net/printemps. elodie-illustration-avec-un-s.net/printemps. Ok, retour à l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue pour ce tout premier épisode de Illustration, le podcast. Donc moi, c'est Elodie, je suis illustratrice depuis 2010 et aujourd'hui, je vais vous parler de 15 façons de gagner de l'argent dans l'illustration et ce, même si vous débutez. Alors si j'avais envie de faire cet épisode aujourd'hui, c'était pour prouver à toutes les personnes qui sont sur le point de se lancer dans l'illustration ou qui pensent mais qui ont trop peur, qui ont des doutes, qui se demandent s'ils vont pouvoir en vivre, quel marché est viable, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire concrètement, comment ils vont pouvoir vendre leurs illustrations, leurs dessins. Je voulais prouver à toutes ces personnes-là qu'il y a vraiment du boulot dans l'illustration, que c'est un marché où on peut clairement gagner sa vie, j'en suis la preuve vivante. Et qu'il y a surtout plein d'opportunités de gagner de l'argent en tant qu'illustrateur ou illustratrice, contrairement à ce qu'on pourrait penser, contrairement à peut-être ce que pensent vos proches, si vous êtes sur le point de vous lancer. Donc voilà, je vais vraiment vous montrer une liste non exhaustive des possibilités qui s'offrent à vous, parce que l'illustration ne se limite pas aux livres pour enfants. Ça, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg, c'est vraiment la chose à laquelle on pense en premier quand on pense illustration. Souvent, on pense livre jeunesse, livre pour enfants. Mais c'est vraiment, ça représente vraiment qu'une infime partie des possibilités et des opportunités qui s'offrent à vous dans l'illustration. Donc voilà, pour aborder tout ça, je vais vous parler en premier lieu de ce que je connais le mieux, à savoir ma situation, et à savoir comment moi j'ai gagné ma vie depuis 2010, depuis que je me suis lancée, et même un petit peu avant, mais faut pas le dire. Donc je vais vous parler de mon parcours, sachant que chaque parcours est vraiment différent et que chaque illustrateur va avoir sa propre clientèle, sa propre organisation et sa propre façon de trouver ses clients, de trouver du travail. Donc on va parler de ça et je vais vous raconter en détail comment j'ai gagné ma vie depuis les débuts où c'était un peu galère jusqu'à maintenant. Et ensuite j'aborderai d'autres opportunités également que vous pourrez saisir même si vous débutez tout juste dans l'illustration. Alors c'est parti, alors du coup je vais vous parler de moi et on va un petit peu revenir en arrière pour voir comment je gagne ma vie depuis 2010 et même un petit peu avant puisque je me suis déclarée officiellement, c'est-à-dire que j'ai pris mon statut et j'ai déclaré mon activité en 2010. Mais c'est vrai que j'avais commencé un petit peu avant à chercher mon style, à dessiner, etc. Pendant ce temps-là j'avais un boulot, donc je travaillais dans l'animation à Angoulême. Et j'avoue que je savais pas trop où j'allais, je savais pas trop ce que je faisais, j'avais pas de style à ce moment-là, j'avais aucune idée de ce que j'avais envie de faire, donc j'avais pas de cible, j'avais pas clairement d'idée sur ce que j'avais envie de faire, pour qui, voilà, c'était un petit peu brouillon tout ça dans ma tête, j'avais envie de faire plein de choses, en revanche, j'étais passionnée, il y avait plein de choses qui m'intéressaient, plein de choses qui m'attiraient, j'avais envie de faire par exemple de la papeterie pour enfants, j'ai fait des carnets moi-même à la main, j'ai fait de la peinture sur bois, des coussins imprimés, enfin alors tout ça c'était, je touchais un petit peu à tout, ça me rapportait rien, mais c'était pour moi, j'en vendais 2-3 à mes amis, et puis c'était tout. Donc du coup j'avais pas encore, ça c'était aux alentours de 2008-2009, donc j'avais pas encore gagné d'argent vraiment avec ça, donc c'est pour ça que j'avais pas encore déclaré cette activité, et surtout que je travaillais encore à côté, donc je voyais pas trop l'intérêt. Mais c'était quand même une période hyper importante pour moi, où je me suis vraiment rendu compte que ce que je voulais vraiment faire, c'était de l'illustration. Je voulais pas travailler dans une boîte, mais vraiment être à mon compte, faire mes créations, travailler pour moi, être mon propre boss. Ça, c'est quelque chose qu'on sait pas forcément au départ. Si on n'a jamais travaillé dans une boîte, on peut pas savoir si c'est ce qui nous correspond. Tout comme on sait pas si on sera fait pour être entrepreneur et travailler seul chez soi la plupart du temps. Donc personnellement, c'est à ce moment-là que j'ai pu répondre à toutes ces questions. Donc à ce moment-là, donc toujours 2008-2009, j'ai créé ma première boutique en ligne. Donc comme je vous ai dit, hein, j'étais pas encore déclarée, donc je ne vous conseille pas de faire ça. Mais voilà, j'avais une toute petite boutique. Mais par contre, c'est vrai que dès le départ, j'ai vendu des affiches giclées. Il y a plusieurs termes en fait pour dire giclée, on dit fine art aussi, enfin voilà, c'est une technique d'impression qui est je pense la plus qualitative sur le marché, et donc en fait dès le départ j'ai vendu des affiches giclées, alors que à l'époque c'était hyper cher, c'est-à-dire que pour un format A3 ça coûtait 30 euros. Maintenant, ça coûte la moitié, donc 15 euros à peu près. Enfin, ça dépend où vous les faites imprimer, mais si vous les faites imprimer à l'extérieur, enfin chez un imprimeur, ça peut, enfin vous pouvez trouver une impression A3 pour 15 euros. Donc c'était franchement hors de prix à l'époque et je faisais pas du tout de marge, enfin très peu de marge, j'en faisais quand même un peu, mais quand je les vendais c'était vraiment compliqué de marger dessus et de faire des profits avec ça. Mais en tout cas je voulais pas lésiner sur la qualité, ça c'est un truc que j'ai toujours fait dans ma boutique et que je continue à faire. D'ailleurs ce que j'ai jamais fait par contre c'est d'acheter une imprimante pour imprimer moi-même mes affiches. Alors je l'ai jamais fait parce que j'avais pas forcément envie de m'embêter avec ça et que ça prend de la place, chose que j'ai pas forcément à Paris. Mais en tout cas je sais que c'est une option qui apparemment est plus intéressante financièrement. Alors en revanche je vais pas pouvoir vous donner d'exemple d'imprimante là tout de suite, mais par contre je sais que c'est un sujet qui est souvent discuté dans mon groupe privé sur Facebook. Alors si vous le connaissez pas, je vous mettrai le lien dans les notes de cet épisode. Ça s'appelle la communauté d'Elodie avec les trémas sur le E sur Facebook. Voilà, vous pouvez demander à vous inscrire et je valide toutes les inscriptions a priori. Il y a juste à répondre 2-3 petites questions. Mais je sais que c'est un sujet qui revient régulièrement et qu'il y a enfin plusieurs personnes en tout cas qui donnent des réponses assez pointues, dont Amandine. Amandine, si tu m'écoutes, petite dédicace. Donc voilà, je pense que ma boutique en ligne, c'est l'une de mes premières sources de revenus à l'époque. Et petit à petit, au fur et à mesure que je créais des illustrations vraiment pour déterminer mon style et pour essayer de créer un portfolio, je me suis rendu compte, parce que à l'époque, j'étais un petit peu brouillon, je partais dans tous les sens, je pouvais dessiner des illustrations pour enfants, des illustrations cartoon, j'ai essayé de... J'ai essayé la peinture digitale, enfin j'ai essayé plein de choses, le photomontage aussi, j'ai vraiment essayé plein de choses. Et petit à petit, au fur et à mesure, ça a commencé à s'affiner, j'ai commencé à comprendre que je préférais dessiner dans un style réaliste et que le monde de la mode et de la beauté en particulier me faisait vraiment rêver. Je m'en suis vraiment rendu compte en Australie, je me souviens encore de la fois où je suis tombée sur un magazine où la couverture était illustrée par David Downton. Alors si vous connaissez pas, je sais pas si je prononce bien déjà, désolée pour mon anglais, mais David Downton, c'est un Downton d'ailleurs, peut-être plutôt. C'est un illustrateur qui illustre à l'aquarelle des illustrations plutôt mode. Et en fait, je suis tombée donc sur un magazine avec l'illustration de Cate Blanchett en couverture. Et autant vous dire que ça m'a subjuguée, j'ai trouvé ça magnifique et je me suis dit c'est ça que je veux faire. Voilà, c'est ça, c'est vers ça que j'ai envie d'aller. Et en même temps que je commençais vraiment à avoir une vision plus claire de ce que je voulais faire et pour qui, mon style a commencé également à s'affiner et j'ai commencé à développer un style réaliste qui mêlait le feutre fin en pointillisme. Je dessinais en pointillisme à l'époque et je rajoutais des taches d'aquarelle, voilà, pour un petit peu donner de la couleur à tout ça. Donc comment j'ai commencé à gagner de l'argent en 2010 quand je me suis enfin lancée officiellement, quand j'ai enfin eu mon statut et mon numéro de Siret. Alors la première chose que j'ai fait à ce moment-là, c'est des portraits pour des particuliers. Alors si vous connaissez pas mon style, voilà, je suis plutôt spécialisée dans les portraits, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Et comme j'ai un style réaliste, du coup ça fonctionne bien, c'est une demande que j'ai assez facilement. Et alors du coup, durant cette année 2010, j'ai fait beaucoup de demandes, de commandes, pardon, de portraits pour des particuliers qui me demandaient ça via les réseaux sociaux ou via des connaissances. Et du coup, je continuais à alimenter ma boutique en ligne qui me rapportait toujours un peu de revenus. Mais c'est vrai que c'était un petit peu, voilà, c'était léger à l'époque. Alors ça, c'était pour ma première année en tant qu'illustratrice. Je faisais pas grand-chose de plus à l'époque. Ensuite, la deuxième année, donc 2011, alors il faut savoir qu'à l'époque, Instagram n'existait pas, ou alors c'est... Enfin, si, c'est ça existait, pardon. Ça existait, puisque je crois que c'est... J'ai regardé, du coup, pour pas dire de bêtises, je crois que ça existe depuis 2010. Mais alors, à l'époque, c'était vraiment confidentiel. Comment dire, les plateformes pour promouvoir son travail, à l'époque, c'était plutôt MySpace. Je sais même pas si ça existe encore. Facebook, voilà, Facebook avait fait un bon démarrage. C'était d'ailleurs la plateforme pour communiquer sur son activité à l'époque, chose qui est plus vraiment le cas. Et du coup, je communiquais comme ça et je continuais à vendre donc sur ma boutique. Je continue aussi à faire des portraits pour des particuliers. J'ai fait ça un bon moment. 2011, c'est aussi l'année où j'ai commencé à vraiment développer un style reconnaissable. Voilà, comme je vous disais, en 2009, quand j'avais vu cette illustration de Cate Blanchett, ça a vraiment fait tilt et dans ma tête. Et du coup, j'ai commencé vraiment à ce moment-là à chercher un style qui pourrait être adapté à ce genre de demande. Et là, du coup, je commençais vraiment à avoir quelque chose de cohérent. Et ça m'a permis d'être remarquée par des galeries à l'international et de pouvoir participer à des expositions de groupe. Par exemple, j'ai participé à des expositions à la galerie Nucleus aux États-Unis. Mais à cette époque, comme je vous ai dit, j'étais à mon compte, donc j'avais plus de filet de sécurité, donc il a fallu que je trouve vite et rapidement du travail. Et les premières commandes que j'ai eues, les premières commandes pro que j'ai eues, c'était pour des flyers, pour les soirées open house showcase à Paris. C'est drôle parce que je ne savais même pas ce que c'était que le showcase à l'époque, alors que c'était c'est une boîte qui est assez connue. Maintenant, ça n'existe plus, je crois, ça a changé de nom. Mais à l'époque, je connaissais pas du tout. Mais j'avais un espèce d'accord mensuel où il fallait que je dessine une illustration de nana un peu sexy, un peu jolie. Donc ça me correspondait. Tous les mois, il fallait que je dessine une jolie nana pour les flyers. Alors, c'était pas rémunéré des fortunes, hein. Je crois que c'était, je sais pas, 150 euros, 200 euros, un truc comme ça. C'était vraiment les premières commandes pro que j'ai pu avoir. Et petit à petit, j'ai aussi été remarquée par la marque Lamarelle, qui était une marque de papeterie hyper réputée à l'époque, qui n'existe plus maintenant, mais qui faisait plein de papeterie, qui faisait plein d'objets dérivés illustrés. Et en fait, Lamarelle allait régulièrement piocher un petit peu chez les illustrateurs qui étaient plus ou moins populaires et pour créer des séries d'accessoires, de papeterie, comme je vous disais, de jouets. Et c'était vraiment un privilège, enfin pour moi c'était vraiment un privilège d'être choisie par Lamarelle. Donc j'ai adoré créer des collections entières d'objets pour Lamarelle, des objets illustrés, bon, qui avait toujours rêvé d'avoir des objets illustrés avec mes illustrations dessus. C'était vraiment super cool de voir mes objets illustrés dans les magasins. J'allais exprès dans les librairies pour aller voir ça. Enfin, j'attendais avec impatience la sortie des collections. C'était vraiment chouette comme époque. Mais du coup ça a fini par fermer cette marque-là. Et à ce moment-là, j'étais payée en royalties, c'est-à-dire en pourcentage sur les ventes. Toujours la même année, j'ai aussi commencé à poster mes illustrations sur des sites de print on demand. Alors à l'époque, je crois que Society 6 n'existait pas encore, mais par contre, il y avait plein d'autres sites qui vendaient des affiches et des objets dérivés. Et en fait, c'était un privilège de figurer dessus parce que c'était plutôt des sites qui choisissaient leurs illustrateurs. Et du coup, moi, dès que je voyais des illustrateurs que je connaissais bien, que j'admirais, qui étaient sur un site, je me disais, ah, c'est trop la classe, il faut que je sois dessus aussi. Donc, je postulais un petit peu à tous ces sites-là. Il y avait l'affiche moderne, VCs Limited, je crois. Après coup, j'ai un petit peu regretté parce que je me suis retrouvée avec toutes mes illustrations un peu partout et finalement, je gagnais quasiment rien et je pouvais rien en faire. Elle m'appartenait plus. Et à un moment donné, j'ai un peu craqué et j'ai retiré toutes mes illustrations de tous ces sites. Ça m'a pris d'un coup et j'ai plus jamais refait du print on demand depuis parce que bon, c'est mon avis, mais si je dois faire de l'argent avec mes illustrations, je veux toucher la totalité, tant qu'à faire. Voilà, mais c'est personnel. Et à la fin de cette année 2011, c'est aussi un moment très marquant pour moi parce que c'est le moment où j'ai trouvé mon agent Collagène avec qui je collabore encore aujourd'hui. Donc ça, c'était pour 2011. Ensuite, de 2012 à 2014, là, c'était vraiment une période où clairement, j'avais trouvé ma patte, je savais ce que je voulais, je savais ce que je faisais. Donc je peux dire que c'est à cette époque vraiment que j'avais vraiment un style abouti, homogène et cohérent avec ma cible. Mon site aussi était beaucoup plus pro, voilà, j'avais pris le temps de le refaire correctement, avec un nouveau logo aussi, plus pro. Et alors j'ai commencé à ce moment-là à illustrer pour la presse, notamment j'avais un accord mensuel avec Glamour Espagne, j'ai illustré pour Elle, Bi Magazine, Votre Beauté, j'ai fait un feuilleton pour Madame Figaro. Alors ça c'était pour les projets mode, mais j'étais aussi parfois amenée à travailler pour des projets pour enfants, notamment avec Milan, avec qui j'ai développé un espèce de journal qui s'appelait mon journal du cheval en fait, pour les amoureux des chevaux. Et donc là, ça c'était payé en royalties aussi. J'ai travaillé sur un cahier de vacances pour Hachette. J'ai travaillé pour toute une collection de puzzles et d'autocollants pour Claire Fontaine. C'était super chouette. Et en plus, ça, c'était un projet d'édition pour la première fois qui n'était pas payé en royalties, mais sur la base d'un prix unitaire comme un projet classique finalement. Donc ça, c'était vraiment super intéressant. C'est aussi à cette époque que j'ai commencé à travailler pour des projets commerciaux, notamment dans la pub avec Target, une marque de magasins américains pour qui j'ai fait des encarts pub sur sur Facebook. J'ai fait des pubs pour du vin, j'ai fait des illustrations pour Post-it, la marque Post-it aussi, pour Dope. J'ai fait des campagnes pour Vision Plus, une marque de lunettes, j'ai fait une illustration pour un événement au Trianon de Versailles, ça c'était un de mes plus jolis projets, où c'était la marque Dérol qui faisait une collaboration avec Trianon de Versailles dans un univers féerique de Noël. Donc moi j'étais chargée de faire l'illustration, c'était un super projet, j'avais adoré. J'ai aussi travaillé pour des applications de beauté, voilà, pour faire des illustrations, vous savez, de visage. J'ai fait aussi des motifs pour Etam et pour un disque. J'ai fait des tests de packaging de parfums. J'ai fait de l'illustration corporate aussi pour des brochures. Et j'ai également continué à faire des expositions de groupes et vendre mes illustrations de cette façon. Donc ça, c'était pour la période 2012-2014. Ensuite, alors je me souviens plus exactement de la date, mais je crois que c'était environ vers 2014-2015, j'ai complètement arrêté de prendre des commandes de particuliers. Voilà, je faisais beaucoup de portraits jusqu'ici, mais à un moment donné, j'ai arrêté parce que je m'y retrouvais plus au niveau du tarif. Quand j'ai commencé à travailler pour des vrais projets pro, notamment dans la pub où les tarifs sont rarement en dessous de 3-0, voilà, je m'y retrouvais plus avec les commandes de particuliers. Et au niveau créativité, je me retrouvais pas, enfin clairement, j'avais juste plus envie et j'avais juste envie de consacrer mon énergie à des projets pro qui m'intéressaient beaucoup plus, tout simplement. Alors c'est aussi à cette époque que j'ai arrêté de dessiner en pointillisme et je suis revenue à mon outil de prédilection qui est toujours le crayon de papier. Donc voilà pour la période 2014-2015. Alors en 2016, après ça, il y a eu un petit chiffre dans ma vie d'illustratrice puisque j'ai abandonné mon site HTML construit from scratch et je suis passée sous WordPress après avoir scruté WordPress pendant des années et bavé devant les possibilités qu'offrait WordPress. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu mettre un blog sur mon site, chose que je pouvais pas faire avant parce que j'avais un blog séparé de mon site, ce qui m'a permis de ramener tout le flux, tout le trafic que peut générer un blog sur ma plateforme, sur mon site internet. Voilà, c'est aussi à ce moment-là que je me suis mis à vraiment bloguer, régulièrement, que j'ai commencé à donner des conseils pour les illustrateurs. Et du coup, ça m'a ramené énormément de visibilité, énormément de trafic sur mon site. Et petit à petit, j'ai commencé à avoir des opportunités vraiment intéressantes comme l'invitation. Alors ça reste un des moments aussi clés dans ma vie d'illustratrice. J'ai été invitée au défilé haute couture de Stella McCartney au Grand Palais. Voilà, j'étais invitée pour couvrir l'événement en illustration. C'était vraiment génial. On était invité dans les backstage avec les mannequins. C'était super chouette. Super souvenir. Ensuite, en 2018, donc on se rapproche de plus en plus d'aujourd'hui, j'ai eu ma première collaboration en tant qu'illustratrice, mais aussi influenceuse, avec Desenio, une marque d'affiches que vous connaissez peut-être. Et en fait, ils m'ont carrément demandé de créer pour eux une collection exclusive d'affiches avec des thèmes qu'ils avaient en tête, etc. Alors ça aussi, c'est un des meilleurs projets, je pense, que j'ai pu réaliser parce que j'avais quasiment carte blanche. J'avais juste des thèmes et du coup, c'est bien quand même d'avoir un fil directeur. Et j'ai pu faire ce que je voulais, j'avais quand même pas mal de temps, même si pour moi, je trouve que j'ai jamais assez de temps. Et du coup, tout a été orchestré avec un rétro-planning pour la com, une soirée de lancement avec des blogueuses, etc. C'était hyper impressionnant et ouais, j'ai vraiment adoré de faire partie de ce projet-là et hyper flattée aussi d'avoir été choisie. Un autre projet aussi dont je suis hyper fière, c'est d'avoir dessiné en live pour Kate Spade. Kate Spade, qui est une marque que j'adore, voilà, qui m'a invitée à dessiner en live dans leur boutique parisienne, qui était toute récente à l'époque. Et c'était super sympa de rencontrer les gens, de dessiner en live, d'avoir les retours des gens en live. C'était la première fois de ma vie que je faisais ça. Je suis quelqu'un d'assez introverti et du coup, en général, j'évite ce genre de choses. Même si je sais que c'est une super opportunité, dessiner en live, il y a énormément de demandes, j'en reçois régulièrement, mais j'ai tendance à les refuser parce que c'est pas quelque chose que j'ai envie de développer, ça me fait trop peur. Voilà, mais en tout cas, si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous êtes à l'aise dans cet exercice de dessiner en live, franchement, lancez-vous, il y a vraiment une demande par rapport à ça. Un dernier petit mot aussi par rapport à un marché qui est assez méconnu, c'est le marché du corporate. Donc récemment, j'ai fait une illustration pour l'inauguration d'un nouveau bâtiment d'une entreprise. Voilà, par exemple, ce genre de projet. Et alors encore un moment clé dans ma carrière d'illustratrice, en 2017, j'ai écrit et sorti un e-book à destination des illustrateurs en herbe qui souhaitent se lancer dans l'illustration et que j'ai mis en vente et qui s'est avéré devenir un revenu passif ultra intéressant. Donc voilà, ça c'était pour tous mes revenus. Voilà, je vais vous faire un petit récap après. Mais avant ça, je voulais aussi vous donner d'autres options de générer des revenus dans l'illustration. Alors, je pense par exemple aux ateliers. Alors, les ateliers, franchement, j'ai l'impression que c'est en ce moment, c'est ce qui a le vent en poupe. Alors, je sais pas s'il y en a beaucoup, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'ils sont assez populaires. Moi, c'est vrai que c'est une copine qui m'en a parlé parce que j'ai une copine créatrice qui s'est lancée l'an dernier. Alors, elle fabrique des objets, c'est pas une illustratrice, mais elle s'est mise à faire des ateliers. Je crois qu'elle apprend aux gens à fabriquer des attrape-rêves, si je dis pas de bêtises. Et alors franchement, je trouve que c'est une option hyper intéressante, même quand on débute, parce que il y a toujours quelqu'un, il y a toujours une cible pour ce genre de d'activité créative, que ça soit des enfants, que ça soit des gens comme vous et moi qui ont envie d'apprendre de nouvelles pratiques artistiques, que ça soit des seniors ou même par exemple pour des enterrements d'une jeune fille, ça peut être une activité sympa. Voilà, donc il y a plein d'occasions de faire des ateliers et ce même quel que soit votre niveau, si vous avez l'impression, si vous vous dites mais j'ai pas le niveau ou je suis pas légitime. Sachez que déjà, si vous dites ça, c'est que vous avez certainement, comme la plupart des artistes, le syndrome de l'imposteur, et que si vous dessinez et que vous êtes illustratrice ou que vous voulez vous lancer, vous avez certainement un talent. Et ce talent, si vous aimez la transmission, si vous aimez le contact, franchement, ça peut être une super opportunité pour vous d'en faire un revenu. Une autre option aussi, c'est de faire des dessins sur des lieux publics. Alors du coup, tout à l'heure, je vous parlais de Kate Spade. Voilà, ça peut être par exemple illustré pour une soirée en live. Ça peut être aussi faire des dessins sur des vitrines de boutiques, voilà, si c'est quelque chose qui vous attire. Ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez faire si vous débutez, parce que vous pouvez aller voir les boutiques de votre quartier, de votre ville, et leur proposer ce genre de service, par exemple. Et ensuite, il y a une autre opportunité encore de générer des revenus que vous connaissez peut-être, c'est l'influence. Tout comme les blogueuses, certaines illustratrices ont une communauté assez importante sur Instagram ou sur YouTube pour pouvoir attirer les marques et pour pouvoir créer du contenu en collaboration avec les marques et être payée pour le faire. Et voilà, je viens de vous faire un topo de toutes les opportunités qui s'offrent à vous dans l'illustration, mais bien sûr, il y en a plein d'autres auxquelles je pense sûrement pas tout de suite, parce que encore une fois c'est une liste non exhaustive et que tous les illustrateurs ont leurs moyens à eux de gagner de l'argent. Alors attention, je vous dis pas que allez-y, lancez-vous, vous allez gagner plein d'argent tout de suite et tout. Non, je vous dis pas ça du tout. Avec cet épisode, je voulais surtout vous prouver qu'il y avait plein de directions possibles à prendre et qu'il n'y avait pas qu'un seul chemin, il y en a plein d'autres et que vous pouvez même combiner plein de choses en même temps, c'est pas incompatible. Alors maintenant, je vais faire un petit récap des 15 opportunités de gagner de l'argent dans l'illustration que j'ai abordées aujourd'hui. Mais pour que ça soit plus intéressant, je vais les classer en fonction de l'évolution de la carrière d'un illustrateur. Alors si vous êtes au premier stade de votre carrière dans l'illustration, c'est-à-dire que vous n'êtes pas encore lancé, vous vous cherchez, ou alors vous venez juste de vous lancer, en première option, vous pouvez faire des portraits sur commande. En deuxième option, vous pouvez faire du dessin en live. Troisième option, mettre en place des ateliers. Quatrième option, ouvrir votre boutique en ligne et commencer à y vendre des affiches, des dessins. Cinquième option, répondre à des commandes pour des petites marques locales ou des particuliers. Sixième option, illustrer pour la presse. Alors sachez que la presse magazine, c'est un marché qui est accessible parce que vous pouvez trouver les coordonnées des directeurs artistiques dans les ours généralement. Septième option, vous pouvez mettre vos illustrations sur des sites de print on demand comme Society6 par exemple, qui propose de créer plein de produits dérivés, d'objets dérivés à partir de vos illustrations. Ça c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait faire quand vous débutez, ça vous coûte rien et ça vaut le coup d'essayer. Donc voilà pour ce que je vous conseille de faire si vous êtes au premier stade de votre carrière. Maintenant, quand on est au deuxième stade de sa carrière, qu'on a développé un style reconnaissable et acquéri un processus de travail fluide, bien souvent, c'est le moment aussi où on commence à attirer de nouvelles opportunités qui souvent peuvent être plus intéressantes d'un point de vue créatif, mais aussi financier. Donc je vais reprendre ma petite liste, on était à la septième option. Donc la huitième option, c'est la vente dans des expositions de groupe. Personnellement, je sais que quand j'ai commencé à avoir un style vraiment reconnaissable, c'est le moment où j'ai commencé à être invitée dans des expositions de groupe, aussi bien en France qu'à l'étranger. C'est toujours sympa les expositions niveau visibilité surtout. parce qu'il y a toujours plusieurs illustrateurs qui participent et qui partagent l'événement sur les réseaux sociaux, ce qui a pour effet de booster la visibilité de l'événement et la vôtre en même temps. Voilà pour la huitième option. Maintenant, la neuvième option, c'est l'édition. Donc ça peut être aussi bien des livres, mais aussi des objets édités. Dixième option, la publicité et tout ce qui est projets commerciaux, packaging, pub sur internet, en car web, etc. Même sur les réseaux sociaux, tout ça, ça fait partie de la pub. Voilà, c'est vrai que c'est un marché qui est l'un des plus lucratifs, c'est-à-dire que c'est rare que les projets, que les budgets soient en dessous de 3-0. Et c'est aussi un marché qui est moins accessible quand on débute, surtout quand on n'a pas encore trouvé sa patte, quand on n'a pas encore trouvé son style et qu'on sait pas trop vers où on va. Alors, onzième option, vous avez ce qu'on appelle le pattern design. Certains illustrateurs gagnent leur vie en licenciant des collections de motifs destinés à être imprimés sur des objets du quotidien, dans des domaines aussi variés que la décoration, la papeterie, mais aussi la mode. Moi, c'est ce que j'ai pu faire, par exemple, pour Etam et pour Undies. Ensuite, en 12e option, il y a tout ce qui est projet corporatif. Donc, je vous en ai un petit peu parlé, mais en gros, le corporatif, c'est tout ce qui va être communication interne à une boîte ou à une association. En 13e option, vous avez ce qui s'appelle l'influence, qui consiste à faire des collaborations avec des marques, comme peuvent le faire les blogueuses, par exemple. C'est un univers que je connais pas du tout, donc je vais pas vous en parler, mais je sais que ça existe et que certaines personnes gagnent leur vie en faisant cela. Donc voilà, c'est aussi une opportunité à saisir si ça vous intéresse. Et enfin, la 15e option, qui là s'adresse plutôt à des illustrateurs expérimentés, c'est d'utiliser sa notoriété et sa réputation pour prendre la parole lors de conférences publiques ou encore même d'écrire des livres pour partager ses connaissances et son expertise. Donc voilà, donc on a fait le tour de ces 15 opportunités de gagner de l'argent dans l'illustration et même quand on débute. Donc voilà, je tiens à préciser que c'est une liste non exhaustive. J'ai surtout parlé de ma propre expérience dans cet épisode et voilà, il y a certainement plein d'autres opportunités auxquelles j'ai pas pensé, mais voilà, c'était déjà pour vous donner un bon panel, que vous puissiez vous rendre compte que c'est vraiment un métier multiple et voilà, il y en a pour tous les goûts. Et d'ailleurs, à toi qui écoutes ce podcast et qui rêve de te lancer dans l'illustration, sache que nous ne sommes pas en compétition. Il y a de la place pour tout le monde sur le marché et il y a une place pour toi qui t'attend.